VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump a prononcé hier son premier discours devant les deux chambres du Congrès américain. Une allocution qu'il a passée sous le signe de l'espoir et des rêves. Les réactions de quelques Américains avec Saloua Diafari.
All the nations of the world, friend or foe.
Donald Trump a prié ses compatriotes de croire en eux-mêmes, croire en l'avenir une fois encore, en l'Amérique. Un ton optimiste qui plaît à ses supporters. Depuis Philadelphie, Brian Gallagher.
Générer des revenus et des emplois, c'est quelqu'un qui parle enfin de l'économie et des travailleurs américains. Qu'y a-t-il à critiquer?
Cependant, les Américains restent divisés sur la capacité de Donald Trump à tenir ses promesses. Les doutes de Pete Harwin ne sont pas dissipés.
Comment va-t-il construire l'infrastructure s'il réduit les impôts? Pour construire l'infrastructure, vous avez besoin d'augmenter les impôts sur les riches. C'est ainsi que ça marche.
Pendant une heure, Donald Trump a appelé au renouveau de l'esprit américain qui permettra, selon lui, de repousser la haine et le mal. Jeff Olson a apprécié le ton modéré du patron de la Maison-Blanche.
Je me serais senti beaucoup mieux d'entendre ce discours il y a 5 semaines. Nous sommes tous Américains. Nous voulons tous voir ce qui est mieux pour l'Amérique. Mais je pense qu'il y a un ton beaucoup plus unificateur dans ce qu'il a dit.
Les médias américains n'ont en tout cas pas été aussi critiques hier qu'ils l'ont été pour les dernières sorties médiatiques du nouveau président.
Dans son discours, le président Trump a annoncé une augmentation substantielle, 54 milliards de dollars, du budget de la défense américaine, pour, dit-il, rebâtir les forces armées et leur donner les moyens de prévenir les guerres et de les gagner si elles doivent se battre. Il a aussi dit qu'il réduira les dépenses américaines à l'étranger pour investir dans les projets intérieurs ici même aux États-Unis. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Brett Bruen, président de la firme de conseil en communication stratégique Global Situation Room.
Il y a dans le Congrès certains membres qui voudraient augmenter le budget de défense, mais en même temps, il y a une majorité, surtout républicaine, qui ont toujours suivi une politique plus conservatrice en termes budgétaires. Et le projet que Trump vient de mettre sur le budget aura des difficultés à trouver de support parmi les membres du Congrès.
Le président Trump a dit que les États-Unis ont dépensé des milliers de milliards au Moyen-Orient alors que cet argent aurait pu être investi ici aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie pour sa politique étrangère, notamment l'aide au développement?
Le président Trump cherche des retours sur les investissements que le gouvernement américain fait, on peut dire, immédiat en termes de compromis ou d'autres bénéfices économiques que le gouvernement américain pourrait présenter pour justifier ses engagements. Et ça, c'est vraiment une politique nouvelle pour les États-Unis parce qu'auparavant, il y en a des investissements pour le long terme parce que ces investissements, ils étaient nécessaires pour le développement de certaines régions du monde, soit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale ou bien en Afrique.
Brett Bruen, président de la firme de conseil en communication stratégique Global Situation Room à Alexandria en Virginie. Afrique maintenant, Tchad, matinée tendue à N'Djamena entre les étudiants et la police suite à la condamnation hier de 69 étudiants à un mois de prison ferme pour outrage à l'autorité de l'État. Des étudiants qui avaient perturbé une visite ministérielle alors que les universités sont en grogne contre la suppression des bourses. Tatiana Mosso.
La réaction de l'Union nationale des étudiants tchadiens ne s'est pas fait attendre. Réunis ce matin en Assemblée générale, ils ont voté pour la suspension des cours dans toutes les universités du pays pour exiger la libération des étudiants condamnés la veille. Dans la foulée, plusieurs groupes d'étudiants se sont rendus dans différents quartiers de N'Djamena pour faire sortir les élèves des salles de classe. La police est intervenue, les échauffourées ont fait au moins un mort et 18 blessés selon une source policière. Les 69 étudiants ont été condamnés suite à la visite sur un campus du ministre de l'Enseignement supérieur, Makaya Santaiso. Il a été hué par les étudiants qui ont lancé des pierres sur les voitures officielles. La police est intervenue pour les disperser de manière musclée avec des grenades lacrymogènes. Les étudiants tchadiens sont en colère contre les mesures d'austérité du gouvernement qui se sont traduites par la suppression de leurs bourses. Pour l'heure, le calme est revenu, mais le mouvement de grève est maintenu.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
RDC, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, de nouveau montrées du doigt. Dans un nouveau rapport, l'ONU accuse l'armée et la police congolaise d'avoir délibérément tué des civils en décembre dernier lors des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Mais Kinshasa rejette ces accusations. Jacques Aristide.
C'est un document de 24 pages du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme en RDC qui dit s'appuyer sur des preuves crédibles recueillies sur le terrain. Entre le 15 et le 31 décembre 2016, au moins 40 personnes ont été tuées et 147 autres blessées dans plusieurs villes du pays. Le rapport de l'ONU indique que la plupart des victimes étaient des civils non armés, blessés par balles, résultant d'un usage disproportionné de la force et de l'utilisation de balles réelles, en particulier par l'armée, dont les soldats de la garde républicaine et de la police militaire, qui ne sont ni équipés ni entraînés pour les opérations de gestion des foules. L'ONU signale également qu'à la même période, au moins 917 personnes ont été arrêtées par les agents de l'État. En réaction, la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, dit que l'accès aux camps militaires n'a pas été accordé aux membres de ce bureau onusien pour des raisons de sûreté de l'État et de secret défense, et de dénoncer ce qu'elle appelle la tendance partisane du rapport à vouloir charger par complaisance les forces de défense et de sécurité de la RDC, alors que la police est restée professionnelle, dit-elle.
Mali, dans le nord du pays, l'autorité intérimaire de la région de Kidal, fief de la CMA, l'ex-rébellion dominante Touareg, a finalement été installée après plusieurs reports. Le président du conseil régional de Hassan Hag Fagaga a reçu hier à Kidal les symboles de l'État lors d'une cérémonie sous haute surveillance des forces de l'ONU et de l'opération française Barkhane. Les différentes autorités devaient initialement être installées à partir du 18 février, mais plusieurs groupes avaient contesté certains choix et le gouvernement de Bamako, par souci d'apaisement, avait reporté les cérémonies. Maintenant, les dirigeants provisoires des quatre autres régions administratives seront installés jeudi à Gao et Minaka et vendredi à Tombouctou et Tao Déni. En vertu de l'accord de paix de 2015, ces autorités intérimaires devront gérer les cinq régions du nord malien en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, six membres des forces de sécurité ont été inculpés dans l'enquête sur l'attentat de juin 2015 à Sousse où 38 touristes avaient été tués. Ils seront jugés pour non-assistance à personne en danger. Claire Morin-Gibourg.
33 personnes, dont 6 membres des forces de sécurité, sont accusées de non-assistance à personne en danger. Les 6 agents font partie de 12 accusés laissés en liberté dans l'attente de leur procès, dont la date n'est pas encore fixée. Le porte-parole du pôle antiterroriste, Sofiane Seliti, a précisé que 14 accusés se trouvent en détention préventive et que 7 autres sont en cavale. Les chefs d'inculpation pour les 27 autres accusés n'ont pas été précisés. Cette annonce intervient alors que des auditions ont eu lieu ces dernières semaines devant la Cour royale de justice en Grande-Bretagne, pays qui a perdu 30 ressortissants dans l'attaque de Sousse. Dans ses conclusions, le juge Nicolas Lorenz-Smith a déclaré hier que la police tunisienne avait réagi de manière chaotique. Leur intervention a été au mieux désordonnée et au pire lâche. En janvier, l'avocat de 20 familles de victimes, Andrew Ritchie, avait déjà affirmé devant la Cour qu'un rapport tunisien remis au gouvernement britannique avait noté des failles dans la sécurité.
Et pour terminer, en France, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, a annoncé sa prochaine inculpation dans une affaire d'emploi présumée fictif impliquant sa famille, tout en assurant qu'il resterait candidat jusqu'au bout. Selon l'AFP, Pénélope Fillon a été elle aussi convoquée devant la justice en vue d'une possible inculpation. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.